Live interview, Julie Chaise-Martin. Cette semaine, je rencontre Michael Barry, qui œuvre pour la renaissance du patrimoine afghan. L'exposition a eu lieu à Herat en décembre 2017, puis à Kaboul au printemps 2018. C'est la première exposition présentant des miniatures persanes dans ce pays meurtri par la guerre. Il le répète à chaque interview, la défense du patrimoine culturel fait partie de la défense des droits de l'homme. Spécialiste des arts islamiques, Michael Barry enseigne aujourd'hui à l'Université américaine d'Afghanistan. Une forteresse, précise-t-il. Forteresse du savoir, de la connaissance, isolée, cloisonnée dans ce pays où les idéologies rigoristes imposent leur pouvoir. Aujourd'hui, en Afghanistan, il ne reste plus aucune peinture de l'époque médiévale et renaissance. Elles sont conservées dans plusieurs musées du monde, mais le peuple afghan, lui, ne les connaît plus. Il faut donc lui permettre de retrouver ces trésors qui témoignent d'une grande richesse, et qui d'ailleurs auraient certainement été détruits s'ils avaient été conservés dans les musées du pays. Dans les deux expositions de Herat et Kaboul, aucun original, mais des reproductions agrandies 12 à 14 fois sur 10 bons. Historien d'art humanitaire, lauréat du prix d'histoire de l'art de l'Académie française en 2013 et du prix international Avicenne qui lui a été décerné en 2018 par les autorités afghanes, la première fois pour un occidental, Michael Barry a répondu à mes questions, rencontré à l'ambassade des États-Unis après une de ses nombreuses conférences.
Ce nom de miniature persane recouvre quelle forme d'art en général ?
En fait, il s'agit d'enluminures qui accompagnaient des textes, des fabliaux de spiritualité, des fabliaux initiatiques. Et ces peintures sont donc des méditations visuelles qui s'offrent comme véritables commentaires sur le propos des textes. Ces peintures étaient réalisées dans des cours princières pour des mécènes royaux, surtout au XVe et au XVIe siècle, à travers tout le monde islamique oriental. C'est un rendez-vous d'ailleurs que l'islam hispano-maghrébin a en quelque sorte raté, puisque la chute de l'Espagne musulmane en 1492 et la sclérose de la partie marocaine de cette civilisation qui s'en est ensuivie a empêché les musulmans du monde méditerranéen occidental de connaître ce prodigieux épanouissement d'un art figuratif qui a eu lieu dans les pays qui correspondent aujourd'hui à la Turquie essentiellement, à l'Iran, beaucoup à l'Afghanistan qui en a été un foyer absolument majeur, ainsi qu'en Ouzbékistan, au Pakistan et en Inde, pour employer les mots actuels. Cet art est très méconnu. D'une part parce que une fois effondrées les dynasties royales qui en étaient les mécènes à partir du XVIIIe siècle, la transmission de la sagesse qui sous-tendait cet art aussi bien que sa technique a été perdue. Les maîtres disparus, les ateliers dispersés, c'est un art qui est devenu muet. Il est devenu aussi muet que peuvent l'être pour nous aujourd'hui les grottes de Lascaux, où on imagine, on soupçonne une liturgie, un rituel, un symbole, mais nous n'avons plus de locuteur pour nous le dire. Et dans le monde islamique oriental, cette tradition s'étant totalement effondrée au XIXe siècle, quand les Européens ont découvert cet art, en grande partie grâce aux empires coloniaux, ils n'avaient plus personne pour leur expliquer ce que cet art signifiait. Et la séparation de cet art de son contexte a été rendue littérale, si l'on peut dire, à partir du moment où les grands marchands d'art, vers les années 1900-1910, ont commencé à découper les miniatures qui étaient dans les textes, jeter les textes, ne garder que les miniatures, les encadrer comme des peintures de chevalet pour les accrocher au mur et en faire un art muet, ce qui, paradoxalement, a beaucoup plu à des peintres comme Matisse, qui recherchaient une esthétique dans d'autres civilisations, qui nourriraient leur propre détournement de la peinture figurative, narrative, historique, initiatique, spirituelle, allégorique, enfin toutes ces traditions occidentales. L'art du XXe siècle a voulu s'en détourner, l'art du XXe siècle européen. Donc nous savons que l'art du XXe siècle européen a puisé dans les traditions de civilisation que l'Europe en fait était en train déjà d'étouffer. Que ce soit la peinture japonaise ou que ce soit la sculpture ouest-africaine, la peinture islamique, elle aussi, a fourni des modèles, mais dépourvus de signification. Or, ce que j'ai tâché de faire dans mon travail a été de rétablir la lecture de ces peintures, non pas seulement en fonction des critères esthétiques bien réels, mais aussi dans le cadre de leur signification spirituelle, symbolique. C'était tout un langage, mais c'est un cheminement qui emprunte, je l'avoue, beaucoup au modèle des grands médiévistes qui nous ont restitué au tournant du XXe siècle la signification de la peinture gothique flamande et autres.
Alors, mais vous êtes aujourd'hui un expert justement sur tous ces arts islamiques. Parlez-nous quand même de cette exposition qui va mettre en valeur ces miniatures en Afghanistan. Comment ça s'est organisé ?
Bien sûr, ça c'est l'autre casquette. Je suis un humanitaire et parce que au départ j'ai connu un pays donné, en l'occurrence l'Afghanistan, bien avant les guerres et les invasions, que je commençais à en étudier la civilisation. Une fois que ce pays a été envahi et est devenu, depuis maintenant 4 décennies, un des grands champs de bataille de notre monde, où s'affrontent les tendances idéologiques les plus horribles et où ont lieu les souffrances les plus accablantes, je ne pouvais pas me détourner de cette souffrance, d'autant plus que je parle les langues.
Donc, mais vous avez passé du temps là-bas.
Beaucoup, et j'ai travaillé pour Médecins du Monde, j'ai travaillé pour les Nations Unies, j'ai travaillé pour la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Mais
organiser une exposition, c'est quelle signification aujourd'hui pour vous là-bas ?
Alors justement, organiser ces expositions, cela signifiait que les cibles de notre organisation humanitaire, de notre souci de soigner, de porter témoignage contre les violations des droits de l'homme, ne devaient pas passer sous silence un apport culturel significatif pour l'ensemble de l'humanité d'abord et pour la dignité de ce peuple ensuite.
Et c'est dire aussi peut-être qu'en Afghanistan, la culture est toujours bien vivante et là, alors qu'effectivement, nous, malheureusement, on a surtout des images venant des médias qui nous ont beaucoup parlé de la destruction du patrimoine afghan.
D'une part, et d'autre part, le peuple afghan lui-même s'est vu absolument privé de son patrimoine culturel. Or, j'affirme que la défense du patrimoine culturel fait partie de la défense des droits de l'homme au sens plus large du terme, parce qu'il s'agit de la défense non seulement du bien-être matériel, physique, mais aussi du bien-être mental, intellectuel. Nous sommes face à des pays qui sont en proie à un traumatisme guerrier si profond, un tel choc émotionnel, que restituer ces images qui sont les créations de leurs ancêtres au XVe, XVIe siècle, c'était aussi une façon de dire au peuple afghan, vous avez été capable de créer les plus belles choses, vous avez été capable donc de le faire à l'avenir, voici votre passé, voici votre fierté, voici ce qui marque que vous appartenez à la famille humaine à part entière, et non pas simplement comme récipiendaire d'aide humanitaire ou comme victime de violations diverses. Vous êtes nos partenaires humains. Et ce que vous nous avez donné est aussi précieux que ce que l'on peut vous donner. Et c'est un message essentiel. C'est bien sûr une démarche qui s'oppose à ces crispations de peur culturelle qui se manifestent sous la forme des intégrismes divers qui, entre parenthèses, s'acharnent autant contre les êtres humains que contre leurs œuvres d'art. Cela va malheureusement ensemble. Les nazis brûlent les livres, et pas seulement les êtres humains, mais aussi les livres. Enfin, ça va ensemble, et c'est ce qu'on voit. L'Afghanistan est un des champs de bataille d'un conflit plus vaste qui désormais ravage toute la partie occidentale de l'Asie, depuis le Liban jusqu'au Pakistan.
Est-ce que ça a été difficile d'organiser cette exposition ? Est-ce qu'il y a eu des obstacles ?
Alors, le véritable obstacle a été l'inertie. C'est-à-dire que les spécialistes du monde islamique anciens ont tendance à se protéger de ces soubresauts actuels en se réfugiant dans l'étude bibliothécaire, en quelque sorte. Ceux qui s'affrontent au monde islamique actuel sont en général des humanitaires ou des journalistes extrêmement avertis de complications actuelles, mais qui ne sont pas forcément versés dans la connaissance de ces civilisations anciennes. Donc, nouer le dialogue entre ces deux parties a été d'une difficulté presque insurmontable. Les érudits me demandaient, mais pourquoi est-ce que vous allez vous aventurer sur un terrain pareil, rester tranquillement à l'université en Occident? Et les humanitaires pouvaient me demander, mais à quoi ça sert de se pencher sur des peintures du XVe siècle quand il y a encore des mines antipersonnelles à déblayer? Et la réponse était, mais il faut les deux. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, une fois que l'American Institute for Afghanistan Studies m'a permis de pouvoir solliciter l'appui, après beaucoup de discours, d'entrevues, des deux ambassades occidentales à Kaboul, que sont l'ambassade de France et l'ambassade des États-Unis, nous avons pu faire reproduire 200 des plus belles peintures du XVe et du XVIe siècle, aujourd'hui dispersées à travers des collections mondiales, sur des panneaux, non pas de papier, mais de métal. C'est un tout nouveau procédé, le métal Dibon, qui donne un éclat et aussi une protection, même contre les graffitis, une rusticité, une solidité, qui indiquait que c'était là la méthode à utiliser pour restituer cet art à ce peuple.
C'est-à-dire que c'était un acte presque de réparation, de pouvoir ramener ces images.
C'est une réappropriation, bien sûr. Ces œuvres ont été créées à Herat et à Kaboul. Voilà la population de Herat et de Kaboul qui peut redécouvrir ce que leurs ancêtres ont fait, tout en évitant le terrible dilemme. Ces œuvres très fragiles sont protégées dans des collections occidentales qui jamais n'auraient permis que les originaux voyagent. D'autant plus que même ici à Paris ou à Londres ou à New York, ces œuvres ne sont montrées que par rotation, parfois une fois tous les 10 ans, pour 3 mois, avant d'être refermées dans des boîtes et maintenues dans l'obscurité parce qu'elles craignent la lumière. Et d'autre part, en multipliant ces reproductions à très grande échelle et de très haute fidélité, on peut donner vie à un livre qui lui-même ne pourrait être ouvert, s'il est intact, qu'à une page donnée. Alors que là, on peut montrer toutes les pages. Et l'effet est un petit peu hallucinant. C'est-à-dire que sur les parois d'un château, les visiteurs vont d'une page à l'autre comme s'ils étaient à l'intérieur même du livre et redécouvrent toutes les subtilités de cet art prodigieux rendu invulnérable. Si, à Dieu ne plaise, il y avait quelque attentat contre ces œuvres, nous pouvons toujours les reproduire. Donc elles sont inatteignables, elles sont intactes, elles sont ressuscitées à jamais.
Donc c'est une exposition évidemment pour les Afghans.
Oui.
Ils seront invités, hommes et femmes,
à venir
dans ce musée. Est-ce que cette exposition est pour vous une petite lumière dans la nuit qui s'est abattue sur ce pays?
Bien sûr que c'est une lumière et j'ajoute une anecdote de ce type. À Kaboul, j'ai tenu à une des représentations d'un souverain du XVIe siècle à Kaboul, en conversation animée avec deux jésuites venus de la colonie portugaise de Goa, où ils discutent religion. Et ça s'est passé à Kaboul en 1581. Et trois étudiantes afghanes sont restées interloquées devant cette image en disant « Mais ça s'est passé ici, chez nous, un souverain à nous, parlant comme ça, avec tolérance et avec tant d'ouverture, avec des chrétiens, mais comment est-ce possible ?» Et comme je passais et que je comprends la langue, je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Eh oui, ça s'est passé ici, quand Kaboul était l'un des foyers culturels d'un empire qui englobait 1/5 de l'humanité, qui était un des plus riches et des plus tolérants du monde. Et maintenant, ce genre de conversation n'a pas cours, et voyez où en est l'Afghanistan. Réfléchissez à ça. » Ah oui, et c'était nous. Donc oui, c'était une lumière qui s'ouvrait.
Merci beaucoup, Michael Berry.
Je vous en prie.
À la fin de l'interview, Michael Berry m'a aussi précisé qu'il avait eu l'occasion de montrer les images des miniatures persanes aux talibans mais leur vision idéologique ne leur permet pas de comprendre, ne leur permet pas de lire ni d'accepter de telles images. Le danger d'anéantissement culturel, le danger terroriste est toujours bien présent. La solution passe aussi par l'histoire de l'art, semble nous dire Michael Barry. Faire renaître cette culture millénaire à travers des actions comme celles que mène Michael Barry, à savoir des expositions et un travail de longue haleine de réparation. C'était Art Interview avec Julie Chaise-Martin et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre rencontre culturelle.